les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Sylvie Barnet, bonjour.
Bonjour Hélène Renard.
Aujourd'hui, nous parlons non seulement d'un saint, mais d'une fête, car l'un ne va pas sans l'autre. Nous allons évoquer Saint Jean. Saint Jean, c'est bien le baptiste,
Saint
n'est-ce
Jean pas Baptiste, et non pas Saint Jean l'évangéliste.
Dont la fête tombe le 24 juin, donc on le commence, puisqu'on le fête dans la nuit, entre le 23 et le 24 juin.
C'est-à-dire exactement pour la Noël d'été. C'est une belle appellation que cette Noël d'été qui situe bien qui est Jean-Baptiste par rapport à Jésus. En effet, tout le projet des évangélistes, lorsqu'ils racontent la vie de Saint Jean-Baptiste, c'est de montrer comment Saint Jean-Baptiste est le précurseur, c'est-à-dire celui qui va annoncer Jésus comme étant la lumière du monde. Donc on a là quelque chose de très joli dans le calendrier. La Noël d'été, cela annonce à la fois la Noël d'hiver, l'avènement de Jésus, la naissance de Jésus, et aussi la venue de la lumière, lumière qui est fêtée l'été, c'est-à-dire le 24 juin, au moment où les jours sont les plus longs dans le calendrier.
Alors Jean le Baptiste et Jésus étaient d'ailleurs de la même famille, je crois.
Alors,
quand on le dit.
Plus exactement, selon les évangiles, Jean-Baptiste est issu d'une famille sénatoriale. Il est l'enfant de Zacharie et d'Élisabeth. Selon un procédé d'écriture courant dans les évangiles, on raconte que sa mère était stérile parce qu'il s'agit dans le projet des évangiles de montrer que les femmes stériles vont enfanter. Il y a là quelque chose qui raconte la fécondité de Dieu pour son peuple. Un peuple à qui il a promis une descendance. Donc la stérilité des femmes, son paradoxe, c'est que les femmes à 100 ans, comme le dit la légende apocryphe, eh bien, c'est que Élisabeth puisse enfanter. Et alors, on a un schéma d'annonciation comme celui de Jésus. Il y a un ange qui apparaît à Zacharie, qui lui annonce qu'Élisabeth va enfanter, qu'elle va avoir un fils. Et il est troublé, comme Marie, mais il ne le croit pas. Et à ce moment-là, eh bien, il devient mutique, la parole lui est ôtée et il ne peut plus parler. Alors, il a simplement le temps d'entendre, selon, comme le disent les évangélistes, que le nom donné à l'enfant sera Saint-Jean. Et lorsqu'effectivement Élisabeth accouche, eh bien, sur une tablette, Zacharie a le temps d'écrire son nom est Jean. C'est-à-dire, Dieu a fait grâce.
Et cette Élisabeth, c'est bien la cousine de la Vierge à laquelle la Vierge Marie rend visite.
Alors, autre épisode de la vie de Saint Jean-Baptiste, c'est que dans le sein d'Élisabeth, lorsque effectivement Marie lui rend visite, eh bien l'enfant tressaille dans son sein. Il y a là aussi une lecture de Jean-Baptiste comme précurseur de Jésus. Et puis, de fil en aiguille, Jean va se retrouver emprisonné au palais d'Hérode. À un moment donné, alors, il est dans son temps avant d'être emprisonné, c'est quelqu'un qui est houleux.
C'est un provocateur,
parce que dans le moment historique où va naître Jean-Baptiste, la Judée est sous domination romaine, ce qui va favoriser tout un ferment
de contestation.
On veut absolument revenir aux temps de paix qui étaient ceux idéaux, les temps idéaux que représentaient ceux du règne du roi David. Et la population attend un sauveur. Elle est sous domination romaine, elle attend un sauveur qui viendra la sauver. Et il y a des mouvements de réveil qui ponctuent l'histoire de la Palestine à cette époque-là. Et Jean-Baptiste est présenté comme un de ces agitateurs, un de ces perturbateurs qui promet le baptême par l'eau. Donc il professe un mouvement religieux très différent du judaïsme
officiel, voilà.
Centré sur la synagogue, centré sur les rites, centré sur
le
sacrifice.
Voilà,
alors que lui, eh bien, il appelle chacun à être baptisé dans l'eau pour renaître. Mais c'est un baptême d'eau qui confesse et qui lave des péchés, c'est un baptême de purification qui annonce, comme dit Jean, le baptême qui sera donné dans le feu et dans l'esprit par Jésus-Christ. Donc, cela nous ramène à l'idée de la lumière, hein, si belle lorsqu'on évoque Saint Jean-Baptiste, puisque à son nom sont associés les célèbres feux de la Saint-Jean.
Alors, avant de parler des feux de la Saint-Jean, Sylvie Barnet, vous aviez commencé à nous raconter que la vie de Saint Jean-Baptiste avait très mal fini.
Alors, la vie de Saint Jean-Baptiste, après ce mouvement de réveil, à un moment donné, Jean-Baptiste va même douter de la mission de Jésus. Il va se retrouver emprisonné dans les prisons du roi Hérode. Hérode, parce qu'il a compté...
Toujours le même, là, celui qui avait fait des misères au moment de la naissance de Jésus.
Absolument.
Enfin, qui fera des misères, parce que là, il est
Et Hérode, qu'il va contester dans son projet de vie, parce que Hérode vient d'épouser sa nièce,
oh
il l'a prise pour femme, la fameuse Hérodiade. Et Hérodiade a une fille, Salomé, et à l'instigation d'Hérodiade, Salomé va faire une danse devant le roi Hérode, et Hérode va lui charmer, va lui demander ce qu'elle désire, et à l'instigation de sa mère, elle va répondre « Je veux la tête de Saint Jean-Baptiste ». Ce à quoi Hérode, consterné, répond, puisqu'il fait décapiter Saint Jean-Baptiste et porter sa tête. Salomé fait apporter la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau. Alors, c'est une scène qui a été représentée par tous les peintres de l'Occident. On a très belles représentations, notamment
sûr,
à la fin du Moyen-Âge. Et c'est une scène qui est bien connue sous le nom de décollation de Saint Jean-Baptiste. C'est la raison pour laquelle aussi Saint Jean-Baptiste est le patron des couteliers. Parce que c'est un renvoi au couteau qu'il a décapité.
Il l'a décapité. Alors, vous nous parliez des fêtes de la Saint-Jean. Sans doute, ces fêtes sont-elles liées aussi, puisqu'on est le 23-24 juin, au fait que les jours sont les plus longs à ce moment-là ?
Oui, les jours sont les plus longs. Et puis, c'est une fête qui magnifie la lumière et qui se greffe dans le calendrier chrétien à un moment de l'année ou dans d'autres calendriers, comme le calendrier celte ou le calendrier romain, où avaient lieu des fêtes en lien avec la célébration du soleil. Il s'agit de célébrer le feu, il s'agit de célébrer la lumière. Alors évidemment, le monde chrétien en aura une lecture totalement centrée sur le Christ, hein, Noël d'été, Noël d'hiver.
Mais en même temps, c'est pour une civilisation très agricole, très, très paysanne.
Tout à fait. Les feux de la Saint-Jean, on ne les allumait pas dans les villes. Et au XIXe siècle, ce sont des rites totalement liés aux grandes fêtes agricoles qui annoncent les grandes fêtes de l'été. On est avant les moissons. Et donc, dans la nuit du 23 au 24 juin, on allume d'immenses bûchers. Et toute la nuit ont lieu des processions tout autour du bûcher. Et le matin, lorsque les feux se sont un petit peu éteints sur les cendres, eh bien, par exemple, dans les villages, les jeunes fiancés avaient coutume de tenir leur fiancée par la main et de passer le feu avec elle, ce qui, disait-on, leur augurait de se marier dans l'année.
Donc même chose pour les rites de fécondité aussi.
Rites de fécondité
finalement.
Et même chose pour les troupeaux. On faisait passer le troupeau sur les cendres des feux de la Saint-Jean pour s'assurer qu'il y aurait que le troupeau ne serait pas décimé, qu'il n'y aurait pas de maladie. Et puis vous avez toutes sortes de coutumes. Par exemple, dans certains villages des Cévennes, on envoyait les vieilles femmes des villages cueillir les herbes de la Saint-Jean.
Ah oui.
Qui étaient ramassées en gerbe ou liées,
séchées,
liées de façon à former des croix pour protéger la maison.
Mais c'est vrai que c'est aussi l'époque où les herbes sont les plus hautes dans le jardin, donc évidemment on ne va pas les envoyer en plein hiver.
Mais la tradition des villages voulait qu'on aille cueillir certaines herbes. Par exemple, on allait cueillir l'armoise contre l'épilepsie et les vertiges dans le Jura. Dans le Nivernais, on allait cueillir la fougère.
Bon, donc ce sont des rites à la fois agricoles qui existaient sans doute depuis longtemps et qui ont été christianisés.
Absolument.
Les rites de la Saint-Jean. Que peut-on dire encore sur cette Saint-Jean, si ce n'est qu'on y jetait des animaux ? Vous m'avez mis la puce à l'oreille avec vos histoires de troupeaux, là. Et...
Alors, beaucoup de traditions sont liées au feu de la Saint-Jean. Et par exemple, au XVIIIe siècle, on a mention dans les chroniques de certains villages où on jetait dans le feu de la Saint-Jean les serpents, mais aussi les chats noirs, c'est-à-dire tous les animaux représentant le mal. Donc, le feu de la Saint-Jean, il a une vertu de purification aussi du mal dans le monde. Évidemment, ce sont des coutumes superstitieuses auxquelles l'Église a essayé de mettre fin. Et au XIXe siècle, on a de moins en moins de mentions de ce genre.
Voilà, merci Sylvie Barnet de nous avoir éclairé sur la figure de Saint Jean-Baptiste, figure de provocation d'un côté, de purification et aussi
et d'annonce de la lumière.
D'annonce de la lumière et avec tous les rites populaires qui sont attachés à cette fête.
Dans un moment où le soleil est le plus haut dans le ciel.
Merci beaucoup.